Henri de Régnier, L'Amphisbène, troisième partie. 3 juin en mer au large de Marseille. J'ai apporté sur le pont le gros cahier blanc de Néroli. Je l'ai posé sur une petite table au-dessus d'une lampe électrique et je me suis installé dans un vaste fauteuil d'osier. Il fait une nuit admirable, toute vivante d'étoiles, une nuit profonde et douce. La mer est calme, unie. L'Amphisbène file mollement. J'entends le bruit régulier, monotone, joyeux que fait l'eau le long du bordage. Du pont arrière où je suis assis, j'ai devant moi toute l'étendue du yacht, coupée par les deux mâts et la cheminée. Je sens dans sa masse la vibration sourde de l'hélice. La côte a disparu. Tout le monde est endormi. Monsieur et Madame Subagny ont été assez éprouvés par ces premières heures de voyage. Gernot n'a pas fait non plus très bonne figure. Antoine, furieux maintenant d'être parti, est demeuré dans sa cabine. Madame Bruvan s'est enfermée dans la sienne. Madame de Lérins a fait de même. Me voici seul. La nuit est belle, tienne, silencieuse. Le quartier-maître vient de piquer le quart. La sonnerie a vibré aiguë dans l'air marin. Une légère humidité nocturne rafraîchit mes mains fiévreuses. La sortie de Marseille a été un peu dure, comme il arrive souvent. À 4 heures, l'Amphisbène a appareillé. On a largué les amarres. La sirène a gémi longuement. Avec lenteur et précaution, le yacht s'est dégagé des navires qui l'entouraient, puis il a dépassé le Fort Saint-Jean, et nous avons pris la mer. Une houle lumineuse nous accueillit. L'eau était d'un bleu sombre et magnifique, fatigante aux yeux. Nous avons navigué entre des îles, le long d'une côte rocheuse et découpée, que le soleil couchant a peinte de couleurs magnifiques. Je suis monté sur la passerelle. Ensuite, le crépuscule est venu. À table, personne n'a paru, sauf Gernon, qui s'est risqué jusqu'à la salle à manger. Le mal de mer dont il avait souffert entre l'île Pomec et l'île Ratonneau l'avait mis en appétit. Il mange d'une façon effroyable, comme quelqu'un à qui son dîner ne coûte rien. Je crois que cette perspective de passer 2 mois sans bourse délier l'a déterminé pour beaucoup à accepter l'invitation de Madame Bruvan. Cependant, après ce dîner plantureux, il a paru de nouveau inquiet, et il n'a pas tardé à s'éclipser. La mer est pourtant à présent parfaitement calme, si calme que j'écris facilement. Si mes lignes sont irrégulières, c'est que ma main tremble de crainte et d'allégresse. Comme mon cœur bat, mais je pense à elle. Toute cette belle nuit marine est pleine de sa présence. Sa présence, comme ce mot me semble étonnant et précieux. Tous les jours, pendant 2 mois, tous les jours, à toutes les heures, elle sera là. Elle est là. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'elle inventerait quelques prétextes pour se dispenser de ce voyage. Ce matin, en allant l'attendre à la gare de Marseille, j'étais encore persuadé qu'elle ne serait pas dans le train. Ah, quel soulagement j'ai éprouvé quand je l'ai vue descendre du wagon avec cette charmante souplesse de corps qui s'accorde si bien au rythme puissant et délicat de la mer. Elle paraissait toute joyeuse, et elle m'a tendu gaiement la main. C'était la première fois que je la revoyais depuis mon départ pour Clessy, depuis cette absurde histoire de Madame de Gersainville. Qu'avait bien pu lui raconter cette folle? Pourquoi Lord avait-elle mis dans cette situation? Pourquoi? Oh, je ne le saurais sans doute jamais. Peut-être a-t-elle regretté d'avoir agi comme elle l'a fait, car durant le trajet de la gare au port, Elle m'a parlé presque tendrement. Et puis qu'importe, l'essentiel n'est-il pas qu'elle soit venue? C'est cette pensée qui, ce soir, me remplit de joie et d'émotion. Oui, Laure de Lérins, c'est là. Elle occupe une des trois grandes cabines du yacht, non loin de celle de Madame Bruvan. Et il en sera ainsi demain. Ah, que de demain, en ces 2 mois, nous allons vivre côte à côte. Pourtant, un jour viendra où ce beau rêve sera fini. Oui, mais il y aura alors le souvenir, l'admirable souvenir qui conserve, qui éternise, qui recompose inlassablement ce que le temps a détruit. Pourquoi ne lui ai-je pas encore avoué mon amour? Quelle singulière hypocrisie que de lui laisser croire que je ne ressens pour elle que de l'amitié. Hélas, oserais-je jamais lui dire le timide secret de mon cœur? Que ne l'a-t-elle deviné? Et pourquoi me suis-je tu obstinément? Pourquoi? Oh, je le sais bien un peu. Une des raisons de mon silence n'est-elle pas ce goût d'indépendance et de liberté qu'elle manifestait avec tant de vivacité? Il me semblait qu'elle eût pris une déclaration d'amour pour une sorte d'attentat à cette liberté, à cette indépendance. J'attendais, pour parler, qu'elle se montrât moins ombrageuse et moins peureusement farouche. Ah, Laure, Laure de Lérins, puissais-je, par quelques nuits comme celle-ci, au rythme d'une mer calme et douce, à la faveur des molles ténèbres sous un ciel de lointaines étoiles, prendre et retenir dans ma main votre petite main nerveuse et parfumée, et me faire écouter de vous. Avant de descendre dans ma cabine, je suis monté un instant sur la passerelle. Monsieur Bertin, le second du bord, y faisait son quart. Il m'a fourni quelques explications sur la route que nous suivons. De temps en temps, le timonier donnait un tour de roue et se penchait pour examiner la boussole, enfermée dans l'habitacle et éclairée par une lampe électrique. 5 juin. Nous sommes ancrés dans la baie de Bonifacio, devant le petit quai que domine la ville en échelons et sa grosse citadelle jaune. Le port ne contient avec le yacht que quelques barques et quelques voiliers. La baie, dont l'entrée droite s'élargit pour former une sorte de lac aux eaux parfaitement calmes, est entourée de hautes monturailles de rochers à pic, creusés d'anfractuosités bizarres, de crottes humides et sombres. Après déjeuner, je propose de descendre à terre, mais Madame Bruvan y semble peu disposée. Pour Antoine, c'est l'heure de la sieste. Madame Subagny est mal remise de son début de navigation et elle déclare qu'elle ne laissera sous aucun prétexte Monsieur Subagny ajouter les fatigues d'une promenade à celles d'une nuit agitée. Monsieur Gernot déclare que Bonifacio ne lui semble avoir rien de bien intéressant. Seule Madame de Lérins accepte ma proposition. Je pense qu'il en sera souvent ainsi, et je m'en réjouis. Comme il fait assez chaud, elle est allée mettre une robe légère, et je l'attends en causant avec Monsieur Gernot. Monsieur Gernon s'est composé un étrange costume qu'il a dû acheter chez le fripier. Il porte une espèce de vareuse gros bleu d'un drap si râpé qu'à certaines places il a l'air verni. À cette vareuse, il a joint un pantalon de toile blanche légèrement effrangé. Il a remplacé son canotier de paille habituel par un casque colonial. Ce casque est côtelé comme un melon et son couvre-nuque descend si bas qu'à certains mouvements, il rencontre le col de la vareuse, ce qui le fait se soulever et en rabaisse la visière sur le nez du pauvre monsieur Gernon, qui doit alors rétablir l'équilibre instable de sa coiffure. Mais malgré cet inconvénient, monsieur Gernon est très fier de son équipement. Il s'avoue aussi fort content de l'expédition marine qu'il a entreprise et qu'il appelle son périple. Il est très flatté de voyager en si élégante compagnie. Aussi a-t-il l'intention de se conformer aux usages de la meilleure société. C'est pourquoi, ce matin, il est venu me trouver dans ma cabine pour me demander à quoi peuvent bien servir certains ustensiles de toilette dont il ignorait l'utilisation possible. Je l'ai renseigné de mon mieux et je lui ai montré comment on fait fonctionner la baignoire. Il a paru s'intéresser vivement à cette expérience et il a fort admiré l'ingéniosité des appareils. Néanmoins, il a laissé s'écouler l'eau sans témoigner aucun désir de prendre un bain. Là-dessus, il m'a confié qu'il aurait certes bien pu s'adresser au valet de chambre, mais qu'il avait préféré recourir à mes lumières. Il est décidé à réclamer le moins souvent possible les services du personnel, car il les faudrait reconnaître à la fin du voyage par des étrennes dont l'obligation commence déjà à le préoccuper. Le brave Gernon est terriblement avare. C'est d'autant plus inexcusable qu'il n'est nullement besogneux, m'a assuré M. Feller, qui connaît bien notre original. Madame de Lérins n'a pas été longue à se préparer, et bientôt je la vois reparaître au haut de l'escalier, fraîche et pimpante. Elle porte une robe de toile bise, et elle est coiffée d'un grand chapeau autour duquel s'enroule une souple gaze flottante. Le canot nous attend au bas de l'échelle. En cadence, les rames frappent l'eau, et quelques minutes après, nous abordons au quai, où nous sommes accueillis par une bande de gamins qui gambadent et gesticulent autour de nous. Par le bronze du teint, par le feu des yeux, ils sont déjà italiens, ces gamins de Bonifacio. Mais à l'encontre de leurs congénères de Gênes ou de Naples, ils ne nous demandent pas l'aumône. Ces jeunes Corses, plus ou moins dépenaillés, sont fiers et discrets. Ils se contentent de nous suivre un moment, puis ils se dispersent et nous laissent continuer notre route. Bonifacio est une bizarre petite ville. Ses étroites rues en pente rude sont pavées d'un caillouti dur qui râpe les semelles. Les maisons qui bordent la rue sont en pierre massive, trapue. Quelques-unes sortent de portes sculptées. L'aspect mi-provençal, mi-italien, est en soi peu rébarbatif. Les gens nous regardent passer avec indifférence, tandis que nous montons vers la citadelle dont la lourde masse jaune se carre sur le ciel bleu. Nous y voici parvenus à cette citadelle. À son pied s'étend une esplanade où l'on a une vaste vue de mer. Dans le lointain se profile la côte de Sardaigne. Tout l'air est rempli d'un soleil éclatant. La pierre d'un petit parapet est toute tiède et Madame de Lérins la caresse de sa main dégantée, tandis que nous restons là, presque sans parler. Parfois une légère brise agite le voile de Madame de Lérins. Parfois une hirondelle passe auprès de nous en poussant son cri aigu. Madame de Lérins la suit des yeux et retourne dans sa rêverie. Elle semble heureuse et calme. À quoi songe-t-elle? Quelles pensées naissent sous ce front gracieux? Sur l'esplanade, non loin de nous, il y a trois ou quatre arbres au feuillage maigre qui donnent un peu d'ombre. Un groupe de garçons et de fillettes s'y est réfugié. Soudain, Madame de Lérins me les désigne du bout de son ombrelle. « Regardez donc, Delvray, sont-ils amusants, ces bambins ?» Je regarde. Oh, la scène, en effet, est comique. Trois des petites filles se sont affublées de grands voiles de mousseline blanche dont elles s'enveloppent la tête et qui les couvrent presque entièrement. Elles tiennent à la main, chacune, un bouquet de fleurs et s'avancent en minaudant et en faisant des saluts cérémonieux. Les garçons leur répondent par des salamalecs pleins de gravité et de prétention. Ils tiennent aussi les fleurs à la main. Puis, filles et garçons, ayant fini leur simagrée, se prennent par le bras et se mettent à défiler d'un air pompeux et officiel, en tournant autour des arbres. À quoi jouent-ils? À la réception de monsieur le préfet ou au mariage? Oh, je crois bien que c'est au mariage. Le cortège est précédé par un gros bonhomme de 7 à 8 ans qui, la culotte trouée, imite admirablement le bruit du tambour. Un autre mioche manie un bâton 2 fois haut comme lui. Celui-là représente évidemment le personnage du Suisse. Il est si drôle que madame de Réerens se met à rire. Puis tout à coup, son rire s'interrompt et elle demeure silencieuse, tandis que le petit cortège continue à tourner au bruit du tambour autour des arbres à feuillage maigre, sur l'esplanade ensoleillée que domine la grosse citadelle jaune. Ah, Lord de Lérins, que ne vous ai-je connu à l'âge de ces fillettes, et que n'ai-je eu alors l'âge de ces garçons? Nous aurions vécu dans quelque vieille petite ville, désertée et provinciale. J'aurais partagé vos jeux. Nous aurions, nous aussi, peut-être, joué aux fiancés avec des fleurs dans les mains, et le temps aurait passé, et ce souvenir serait devenu une réalité. Nos deux vies se seraient jointes naturellement, simplement, fortement, au lieu de se rencontrer comme elles l'ont fait à l'âge où la vie a rendu les cœurs incertains, où trop de choses se sont mêlées à l'existence, où l'amour est devenu un jeu difficile, plein de subtilités et de hasards, d'angoisses, de désirs et de craintes. Nous avons regagné le yacht à travers les étroites rues en pente de Bonifacio, le long des maisons assombries. Sur le port, le canot nous attendait. Mais avant de retourner à bord, madame de Lérins a voulu faire une promenade dans la baie. Nous avons passé sous l'étrave de l'amphisbène et nous avons longé la haute muraille de rochers. L'eau était d'un calme profond, d'un bleu presque noir. Le canot y laissait un long sillage. Parfois, nous aurions presque pu toucher les parois rocheuses. Il s'en exhalait une singulière odeur d'herbe marine, un étrange parfum salin. Nous sommes allés ainsi jusqu'à l'entrée du goulet. De là, l'amphisbène à l'ancre faisait fort bon effet avec sa coque blanche, sa cheminée, ses mâts, son air d'élégance et de force, avec sa flamme rouge sur laquelle se détache l'emblème fabuleux du serpent bicéphale dont il porte le nom. Ce nom, au désespoir de la bonne madame Subani, qui n'arrive pas à le retenir facilement, et lui fait subir les transformations les plus cocasses. 6 juin. Notre prochaine escale sera Naples, où nous arrêterons quelques jours. 7 juin en mer. Nous serons en vue de Naples demain matin. L'amphisbène file ses 11 nœuds avec régularité. J'ai eu une conversation avec Antoine Hurtin. C'était après le déjeuner, il était étendu sur une chaise longue. Auprès de lui s'écroulait une pile de romans. Depuis qu'il est malade, il s'est mis à lire, lui qui n'ouvrait jamais un livre. Maintenant, il dévore 3 ou 4 volumes par jour. Ce sont la plupart du temps des écrits de voyage. Il y trouve une compensation à l'inactivité de sa vie, car la croisière qu'il accomplit doit être exclusivement une cure de grand air et de repos. D'ailleurs, je le trouve déjà mieux, bien qu'il prétende qu'il n'a jamais été plus bas et qu'il ne guérira jamais. Je le laisse dire, et je suis persuadé pour ma part que nous le ramènerons à Marseille en parfaite santé. Aujourd'hui, il est moralement dans un de ses mauvais jours. À ces moments, je tâche de le remonter en lui persuadant que rien n'est perdu, qu'il traverse une crise dont il se tirera certainement avec de la patience et de la volonté, que c'est l'avis du docteur Tullier et de tous les médecins qu'il a consultés. D'ordinaire, ces discours le mettent en colère. Il se lamente, peste contre sa mauvaise chance et maudit une fois de plus la stupide existence qu'il a menée. Je m'étais assis à côté de lui et j'écoutais distraitement ses doléances en regardant Madame de Lérins qui faisait les 100 pas sur le pont. Il s'aperçut de mon inattention et me dit en grognant « Tout de même, mon cher, tu devrais m'écouter un peu mieux. « Oh oui, je sais bien que je suis devenu le pire des raseurs avec ma santé. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de m'en vouloir. Tu as été gentil de consentir à nous accompagner dans cet assommant voyage. Non, ne proteste pas, c'est inutile. On s'assomme et on s'assommera sur ce bateau, c'est inévitable. Tu sais comment je comprends la navigation, moi. À la manière de Morland, le banquier américain. Tous les ans, il emmène quelques amis sur son yacht. On le charge de caisses de champagne et de porto, et on y joue au poker du matin au soir. L'année dernière, ils sont allés aux îles du Cap-Vert, et de toute la croisière, personne n'a mis une fois le pied sur le pont. Au bout d'un mois, ils se sont retrouvés à Marseille, comme ils en étaient partis, c'est-à-dire autour de la table de jeu. Morland perdait 400 000 francs, il ne restait plus une bouteille dans la cale. Voilà un voyage. Mais ici, pof, c'est pourquoi tu es vraiment un chic type, tu sais, de t'être joint à ce qu'on voit. Mais avoue que moi aussi, j'ai fait quelque chose pour toi, et que je mérite bien en retour, que tu écoutes avec un peu de complaisance le récit de mes digestions et autres confidences du même intérêt. Que diable! Je ne comprenais pas du tout ce que voulait dire Antoine. En voyant ma mine interloquée, il me frappa sur le bras. « Allons, mon vieux, fais donc pas l'imbécile. Tu sais bien ce que je veux dire. Tu ne vas pas me forcer à te faire remarquer les attentions délicates que j'ai eues pour toi. » « Eh bien oui, quand tu as eu accepté l'invitation de ma tante, j'ai été pris de remords à la pensée que tu allais passer 2 mois en la sombre compagnie d'un gâteux de mon espèce, avec pour toute distraction la société quotidienne du vieux couple Subagny et de ce toquet de père Gernon. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ce malheureux Delbray va devenir sur cette galère ?» Moi, n'est-ce pas, j'ai mes occupations, je respire, je me tâte le pouls, j'examine ma langue, je suis mon régime, je tâche de refaire de moi quelque chose de plus présentable que la loque que je suis devenu. Ma tante, elle m'a. Les Subagny, eux, n'ont besoin de personne. Oh, tu verras quel drôle de vieux ménage ils font, ces deux-là. Quant à Gernon, il goûte les ineffables délices de la nourriture et du passage gratuit, et il savoure le prestige qu'il tirera de sa croisière dans les milieux académiques. Mais toi, mon pauvre Julien, qu'est-ce que tu aurais fait sur ces planches pendant 60 jours? Mais tu y serais mort d'ennui, ou tu nous aurais lâchés à la 3e escale. Et alors moi? Que veux-tu? Tu es la seule tête humaine qui ne me dégoûte pas en ce moment. Oui, bien vrai, c'est comme ça. Peut-être parce que nous avons des souvenirs communs, des souvenirs gentils, qui datent d'avant que je fasse la fête stupide qui m'a crevé. Tu es le seul homme à qui je n'ai pas envie d'allonger mon pied au derrière, ce que je ferais volontiers à ce crétin de Gernois. Mais tu m'es nécessaire et je ne voulais pas que tu me lâches. Comme je haussais les épaules, il continua. Oh, tu dis non, mais je sais bien ce qui en aurait été. Tu n'aurais pas supporté cette vie-là pendant 15 jours. Je sais bien que tu sais, toi, employer ton temps, que tu es un garçon intelligent, une espèce d'artiste manqué, en somme, que tu as dans la tête un tas d'idées, que tu as de l'imagination, que tu es un rêveur, comme on dit, que ça t'amuse de regarder la couleur de la mer, de compter les étoiles. Je sais que tu t'intéresses à des tas de fariboles, aux paysages, aux villes qu'on verra, à toutes sortes de foutaises. Mais sans te faire injure, vois-tu, tu ne nous en aurais pas moins plaqué. Alors, c'est en pensant à tout cela que je me suis dit, ah, il faut absolument que je trouve quelque chose pour le retenir à bord. C'était difficile. Heureusement, je me suis rappelé que tu me parlais souvent de Madame de Lérins. Tu me racontais que tu la promenais dans Paris, que vous étiez d'excellents camarades. Alors j'ai eu une idée lumineuse et j'ai insinué à ma tante qu'elle devrait bien inviter aussi Madame de Lérins. Elle était libre comme l'air, fraîchement divorcée. Cela l'amuserait de voir du pays, cet enfant. Et quelle agréable compagnie elle sera pour Julien. Elle l'aidera à passer le temps. Je ne dois pas te cacher que la bonne tante a d'abord un peu regimbé. Elle est très à cheval sur les convenances, la tante Bruvane. Mais j'ai tenu bon. Je lui ai prouvé que si un yacht est un endroit admirable pour se faire la cour, c'est un lieu détestable pour aller plus loin. Ces considérations morales ont rassuré la tante Bruvane, et probablement aussi Madame de Lérins, car, comme tu vois, elle a accepté l'invitation. Il en résulte que te voici pour 2 mois pourvu d'une aimable compagne de voyage. Hein? Que dis-tu de la manœuvre? Le steward nous a interrompus. Il apportait à Antoine sur un plateau un tonique mélange de madère et de jaune d'œuf. Quand il eut bu la mixture, Antoine reprit, en faisant claquer sa langue. Et maintenant, espèce de cachottier, tu ne vas pas me dire que tu n'es pas amoureux de Madame de Lérins. Oh, tu sais, j'ai l'œil pour ces choses-là. Tu aurais beau t'en défendre, n'en croirais pas un mot. Tout abruti et tout gâteux que je paraisse, on ne me met pas dedans sous ce rapport. Tu aimes Madame de Lérins, mon vieux. La preuve, c'est que depuis 3 mois, tu la trimbales. Tu es aux petits soins pour elle. Évidemment, oui, tu es complaisant de ta nature, mais tout de même, tu as dépassé un peu les devoirs de la politesse et de la complaisance. On n'accepte pas de servir 4 fois par semaine de cornac à une petite personne que l'on ne connaissait pas la veille, sans quelque arrière-pensée. Sans cela, tu aurais été un simple nigaud, parce que vois-tu, promener une femme, rien n'est plus embêtant. Ces dames ne sont jamais prêtes, elles sont toujours fatiguées, pleines de caprices saugrenus. Elles nous rendent responsables de tout ce qui arrive de désagréable. Pleut-il, vente-t-il, c'est notre faute. C'est nous qui avons tort s'il fait trop chaud et qui sommes coupables s'il fait trop froid. Et puis une femme, ça n'a aucune suite dans les idées. Soudain, ne veulent plus à aucun prix ce qu'elles désiraient éperdument auparavant. Par contre, oh, il leur prend tout à coup des envies inattendues que nous devons satisfaire sur le champ, sous peine de passer auprès d'elles pour des malotrus. Oh, quelle engeance! Aussi, je ne me rappelle pas une partie amusante qui n'ait été gâtée par quelques caprices de femme, par quelques piques stupides ou quelques sottes querelles. Tu me diras, certes, que mon expérience est sujette à caution, que je ne fréquentais pas des personnes très distinguées ni du meilleur monde. C'est vrai, mais vois-tu, au fond, c'est toutes les mêmes. Seulement avec des donzelles, on a au moins la ressource de s'engueuler. Cette ressource-là, elle m'aurait manqué avec les femmes du monde, alors je n'ai pas travaillé dans cette partie. Cependant, je ne suis pas sans avoir pratiqué quelques-unes, mais ce qui m'en a dégoûté, ce sont leurs simagrées, leurs préambules, leurs marchandages. En amour, oh, j'étais expéditif. À quoi bon tant de palabres? Une femme n'est intéressante qu'au lit. Il faut toujours, n'est-ce pas, en arriver là. Elles le savent bien, d'ailleurs. si bien même que, si l'on prend avec elle trop de ménagement, elles finissent par s'en offenser. Elles y voient un manque d'empressement qu'elles ne nous pardonnent pas. Elles sont rancunières, les matines. Alors, au dernier moment, quand vous avez bien tout préparé de longue main, lorsque vous vous êtes bien mis en frais de délicatesse, que vous croyez les avoir amenées doucement au point voulu, alors elles vous filent entre les doigts, vous tirent une révérence et vous éclatent de rire au nez. Et rien ne leur fait plus de plaisir que de nous jouer ce genre de tour. Elles adorent se payer notre tête. En amour, vois-tu, il y a un moment, et ce moment, il faut pas trop le retarder, où l'on doit brusquer les choses, mettre de côté les beaux sentiments, les petites délicatesses, et où les scrupules sont inutiles et dangereux. Il se tut un instant, puis il continua. Ben, oh, je sens bien que tu n'es pas de mon avis, et que tu m'as toujours considéré comme un assez grossier personnage. Il y a du vrai, d'ailleurs, dans ta façon de m'apprécier. Oui, je sais bien, je suis amoureux et toi, tu es un amoureux. Allons, sois franc. Je suis sûr que tu n'as jamais pris une femme de force. Tu as toujours attendu qu'elle se donne. Tu leur as laissé toujours le temps de se déterminer à être à toi. Oh, je vois d'ici ta méthode, mon bon. Tu as de la persuasion et de la sentimentalité. Et tu m'objecteras qu'au surplus, ta méthode n'est pas mauvaise, qu'elle ne t'a pas mal réussi et que tu as eu, par ce procédé, autant de maîtresses qu'un autre. C'est peut-être vrai, mais c'est une question d'intérêt personnel. Tes succès te viennent de ce que tu es un garçon distingué, sympathique, qui a de la conversation, qui sait être tendre, galant, gentil. Oui, tu as de l'esprit et du cœur. Alors, tu gagnes à être connu. Le goût qu'une femme peut avoir pour toi, si elle est au début un peu indécis, peut se fortifier à mesure qu'elle se rendra mieux compte de tes qualités. Du reste, ça ne doit pas être désagréable du tout, ce genre de succès. Cela doit même être amusant de voir que peu à peu l'on gagne du terrain, que l'on est mieux apprécié. Sans compter que ça doit être excitant de voir ainsi mûrir le fruit, de le toucher, de le palper, de constater qu'il est à point, qu'il va tomber. Tout cela est très bien, évidemment, mais avoue qu'il faut des aptitudes qui m'ont plutôt manqué. Est-ce que j'avais le physique de l'emploi? Est-ce que les gens de mon espèce peuvent manœuvrer ainsi? Qu'est-ce que j'aurais gagné à me faire connaître? Je te le demande un peu. Imagines-tu le gros Antoine Hurtin faisant le séducteur, déployant ses grâces? On se serait moqué de moi. Alors j'ai pris l'autre parti et il m'a si bien réussi que tu peux admirer où il m'a conduit. Antoine Hurtin s'est arrêté en soupirant. Là-bas, au bout du yacht, Madame de Lérins grimpait alardement sur la passerelle. Sa silhouette se détachait élégamment sur le ciel bleu. Je me suis levé et je craignais qu'Antoine me parlât de nouveau de mon amour pour Madame de Lérins. Je crois qu'il comprit ma pensée, car il se borna à ajouter, avec un peu d'embarras: Écoute, Julien, il faut que je te dise une chose qui me tracasse depuis quelque temps. Il y a 4 ans, je n'ai pas été gentil pour toi, non, vu de certaines circonstances. Oui, j'ai eu tort, et j'espère que tu ne m'en veux plus. Alors j'ai voulu, j'ai tâché. Enfin, je serais heureux si j'ai pu contribuer en quelque chose à effacer définitivement ce vilain souvenir. Mais va donc retrouver Madame de Lérins, tu vois bien qu'elle te fait signe de la rejoindre sur la passerelle. Je t'ai assez rasé aujourd'hui, mon pauvre vieux. Drôle de corps que ce gros Antoine. Ainsi, il a voulu m'offrir une compensation en faisant inviter par sa tante, Madame de Lérins, sur l'amphisbène. De la part de tout autre, il y aurait peut-être là quelque chose d'offensant et d'un peu indélicat. Mais avec Antoine, il ne faut pas y regarder de trop près. En mer, le même jour, la petite Sirville et Juliette de la villa Valmarana et toutes les autres que j'ai cru aimer, comme leurs vaines petites ombres se sont dissoutes à l'air du large. Elles habitaient un coin de ma mémoire. Parfois, elles en sortaient d'un instant, et chacune m'apportait entre ses mains une cendre de souvenirs encore chaudes. À présent, quand elles reviennent à ma pensée, je les reconnais à peine. Leurs lointains visages effacés ne parviennent plus à sourire ou à pleurer, tant ils sont vagues et indistincts. Leur nom, lorsque je les prononce, n'éveille plus d'écho dans mon cœur. Leurs formes ne sont plus qu'une vapeur incertaine. Elles sont mortes à jamais, et cependant, chacune d'elles représentait un moment de ma vie, de ma vraie vie, de celle où j'ai cru aimer. Et voici que maintenant, elles ne sont plus rien. C'est sur un autre visage, sur une autre forme, que je concentre désormais mon désir de vivre et d'aimer. Un autre être occupe toutes mes pensées. Oui, sur ce bateau, tout hors d'elle m'apparaît comme inexistant et chimérique. Compagnons de voyage, matelots d'équipage, tous ne sont pour moi que de vagues fantômes. C'est en vain que je cherche à m'intéresser à eux. J'écoute patiemment ce que me dit la bonne Madame Bruvane, j'écoute ce que me dit Gernon, j'assiste au respectable flirt conjugal que Monsieur et Madame Subagny continuent avec une inlassable persévérance depuis 40 ans de mariage. Quelle importance tout cela peut-il bien avoir? Tout à l'heure, je prêtais l'oreille au discours d'Antoine Hurtin. La seule chose qui m'en demeure maintenant, c'est qu'il a prononcé le nom de Laure de Lérins. Le reste n'est qu'un pauvre bruit évanoui. Il me semble parfois vivre au milieu d'automates. Quand je me penche sur la chambre des machines, quand je vois les pistons de la bielle s'agiter, et quand je vois tourner l'arbre de couche, je m'imagine que ce mécanisme puissant et compliqué n'est pas seulement destiné à faire avancer l'amphisbène. Je lui invente, malgré moi, des répercussions plus singulières. N'est-ce pas lui qui fait se mouvoir les gens du bord, qui les fait aller et venir, parler, manger? Que l'hélice cesse son action et le geste commencé s'arrêtera, les paroles à moitié dites s'interromperont. Tous les fantoches qui m'entourent demeureront figés dans l'attitude qu'ils auront à ce moment-là. Oui, l'amphisbène me fait l'effet de quelque navire enchanté, dirigé par quelque magicien mystérieux et complaisant. C'est lui qui nous a prêté ce navire, à Laure de Lérins et à moi. Nous seuls y sommes de véritables vivants, les autres ne sont qu'illusions. Le magicien ne les a créés que pour rendre plus complète notre solitude. Et où nous conduit-il, ce maître de nos destinées? Que m'importe que les lieux vers lesquels nous allions s'appellent Naples, Palerme ou Syracuse? Ce que je souhaite, c'est que certains yeux aimés sourient à la beauté de la mer, à la grâce des paysages, au pittoresque des villes, et surtout que quelque soir une oreille bienveillante écoute mes paroles, qu'une main consentante se pose dans la mienne. Ah, de ce bonheur! Favorise-moi, magicien tout-puissant, et toi, navire au nom fabuleux, mythologique, amphisbène, obéis aux ordres de l'amour. 8 juin, en mer. Je suis monté sur le pont. J'étais en proie à une singulière exaltation. Le grand air m'a calmé. Il ne fait pas encore jour, mais ce n'est déjà plus tout à fait la nuit. L'obscurité qui nous entoure est d'une trame plus légère, comme amincie ou inconsistante, plus lâche. Sur la passerelle, je trouve le second, M. Bertin, qui est de quart. C'est un jeune homme à barbe blonde et de manières agréables. J'ai déjà causé plusieurs fois avec lui, et je le préfère au commandant, monsieur Lamondon, assez peu communicatif. Monsieur Bertin est accoudé sur la planchette où la carte est étalée, piqué par quatre punaises, à la lueur de la petite lampe électrique. Il me montre la route que nous avons faite et le point où nous devons être en ce moment. Nous approchons. Monsieur Bertin me désigne du doigt, à notre gauche, un feu lointain qui est celui de l'île d'Ischia. Monsieur Bertin se frotte les mains. À ce moment, je m'aperçois que je distingue la terre. Peu à peu, autour de nous, une vague blancheur s'est répandue. Le yacht tout entier est comme sorti de l'ombre. La mer est d'une étrange pâleur laiteuse. L'air s'est éclairci, purifié des ténèbres. C'est la fine pointe de l'aube, sa fraîcheur, son frisson, sa tristesse. Madame de Léras m'a fait promettre d'aller la réveiller dès qu'il ferait jour. Elle veut voir l'arrivée à Naples. J'ai quitté la passerelle et je suis revenu sur le pont. La porte du salon est restée ouverte. Machinalement, je suis entré et me suis assis sur le divan. Bon, il n'a rien de maritime, ce salon. On s'y croirait dans quelque appartement parisien. Il est confortable et élégant. Seulement, les tables y sont machinées en vue du roulis. Et il sent une singulière odeur, celle qui, sur mer, imprègne tous des objets. Pour la première fois depuis mon départ, je songe à Paris, à mon logis de la rue de la Baume, à la vieille maison de Crécy la Grandval, à ma mère, dont j'aurai une lettre sans doute à Naples, à ma mère qui me pardonnerait mon oubli si elle savait que je suis en présence de la grande aventure de ma vie, de l'enjeu décisif de ma destinée. Il fait maintenant presque clair et il faut que j'aille prévenir Madame de Lérins. Je me dirige vers l'escalier des cabines. Au bas, dans le couloir, tout est éteint et il règne une obscurité presque complète. J'ai poussé le bouton électrique et les brillantes ampoules se sont allumées. La lumière luit sur les parois laquées de blanc, auxquelles sont suspendues des aquarelles reproduisant des poissons, des algues, des madrépores. C'est un couloir d'hôtel luxueux. La cabine de Madame de Lérins est au bout. En passant devant celle de Madame Bruvan et de Madame Subagny, j'évite de faire du bruit. Ce que je fais est bien innocent, et cependant, je me sens furtif et gêné. Mon cœur bat. Me voici devant la porte de Madame de Lérins. Sans doute, elle est encore endormie. Comment la réveiller? Vais-je frapper doucement ou frapper un coup délibéré? Je me sens pris d'une timidité singulière. Enfin, je me décide, je gratte légèrement, je heurte plus fort, rien. Bon, probablement, Madame de Lérins s'est profondément endormie. Le mieux serait peut-être de remonter sur le pont. Mais soudain, je suis envahi d'un impérieux désir de la voir. Il me semble qu'il y a un temps infini que je suis loin d'elle. Je frappe un coup vigoureux. Une voix claire, joyeuse, me crie. « Mais entrez, entrez donc, monsieur Delbray. Je ne suis pas encore tout à fait prête. » En même temps, madame de Lérins a ouvert la porte et je me trouve en face d'elle. Elle est vêtue d'une longue robe flottante et enveloppée d'un ample manteau de laine légère. L'électricité est allumée. La cabine a un air de fête. Du seuil, je la contemple éblouie, troublée à la vue du lit où elle a dormi, du lit défait qui laisse traîner sur le tapis son drap débordé. Madame de Lérins s'est approchée de la glace, Elle ajuste sur ses cheveux une élégante casquette marine, et tout en y piquant une longue épingle, elle me dit: Ah, c'est gentil à vous d'être venu m'avertir. J'étais déjà réveillé, mais je vous attendais. J'ai vu peu à peu blanchir le hublot. Cela ressemblait à une espèce de lune bizarre et triste. Bon, c'était vraiment l'œil de la mer qui me regardait. Jamais je n'aurais osé me lever devant ce regard. Alors j'ai allumé. Sommes-nous encore loin de Naples? Allez, tenez, me voilà prêt, je n'ai plus qu'à me chausser. Elle s'était assise au bord de son lit. De son pied nu, elle a lancé au bout de la cabine sa petite mule verte qui semblait avoir marché sur la mer. Nous sommes montés sur le pont. L'aurore, à présent, avait envahi tout le ciel et toute la mer. J'en suivais la lumière grandissante sur le visage de Madame de Lérins. La cité napolitaine se présumait vaporeusement sur l'horizon. Bientôt Naples allait apparaître dans la radieuse clarté matinale. Madame de Lérins s'était allongée dans un large fauteuil d'osier. Je ne voyais qu'elle. Elle avait écarté son manteau. Sous sa robe, je suivais la ligne souple de son corps. Parfois, elle me faisait remarquer une nuance du ciel ou de la mer, les grandes barques que nous croisions et dont les antennes inclinaient mollement leurs voiles pourprées ou couleur d'ocre. De temps à autre, Madame de Lérins balançait son pied chaussé d'un soulier de toile blanche, son pied que je revoyais vif et nu, lançant au loin sa petite bulle verte comme une offrande ironique à la lune marine du hublot.